déplacé à droite.
Ah ben non, c'est la droite qui est allée au centre, le monde va vers la gauche.
Oui, ça c'est la présentation.
Mais ce qui est drôle, c'est que le même Mitterrand disait dans une interview à la fin des années 70, quand on l'interrogeait justement sur la possibilité de gouverner au centre, il s'énervait contre cette notion sempiternelle de centre impossible en France, et il disait « En France, le centre a toujours été à droite ». Cette phrase, on aurait dû effectivement la mettre en banderole au-dessus de l'Élysée le lendemain de son élection de 88. Quoi.
Tu trouves ça rigolo ?
Oui, rigolo. Hein ? Rainman, il a les dents rigolotes.
Rainman ?
Oui.
J'ai dit Rainman ?
Oui, il est rigolo, Rainman.
Et puis, des noisettes en moins pour l'écureuil, et cela en partie à cause des privatisations. Les épargnants ont délaissé les livrets A de la Caisse d'épargne. Des mesures d'encouragement pourraient être annoncées dès aujourd'hui par M. Balladur, avec un relèvement du plafond des dépôts et une hausse des rémunérations. La météo, chaud, beau, partout.
Qui joue en première base ? Qui, le nom du type qui joue en première base ? Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis ?
Prison bloquée, commissariat submergé, procès reporté comme celui d'Action Directe.
Qui joue en première base ? Qui, le nom du type qui joue en première base ?
PTT, transport urbain, Air France, Sécurité sociale, EDF. À peine un feu s'éteint qu'un autre s'allume. Toujours les mêmes revendications.
Qui joue en première base ? Qui, le nom du type qui joue en première base ?
Salaire, conditions de travail. La rigueur passe moins bien quand l'économie va mieux.
Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis ? Qui ? Pourquoi tu me demandes ça ?
Pourquoi il fait ça ? Quand il est nerveux, il récite qui est en première base. Le skate, la botte des
côtes. Qui joue en première base ? Qui ? Le nom du type qui joue en première base ? Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis ?
Politique. Après les hommes de l'ouverture, voici les dossiers clés de l'ouverture. Ce matin, en Conseil des ministres, le gouvernement a présenté les deux projets de loi qui vont sans doute dominer la vie politique française dans les mois à venir. D'un côté, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. De l'autre, le revenu minimum d'insertion. Un coup d'œil sur les textes, en compagnie de Claire Chazal et de Christophe Martet. Ensuite, nous évoquerons les enjeux politiques.
L'impôt de solidarité sur la fortune devrait concerner environ 120 000 personnes. L'ISF devrait rapporter environ 4 milliards de francs à l'État.
Cet impôt de solidarité sur la fortune doit financer en partie, pour la moitié environ, le revenu minimum d'insertion.
Ce sont les préfets qui distribueront ce revenu aux 500 000 Français les plus pauvres.
Une personne seule touchera 2 000 francs par mois, auxquels pourront s'ajouter 1 000 francs pour une autre personne du ménage et 600 francs par enfant à charge.
Voilà, là on est content quand même, c'est le 13 juillet 1988, on a l'ISF, 4 milliards de francs qui vont être attribués aux pauvres. On prend aux riches pour donner aux pauvres, de quoi se plaint-on ?
Ce qui est intéressant, c'est que on parle à ce moment-là des exclus, et c'est la première fois dans les débats politiques français que ce mot désormais hyper courant apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il remplace les pauvres, les nouveaux pauvres, les prolétaires. On a ce terme d'exclus qui est très intéressant parce que littéralement, il dit bien qu'il y a cette espèce au centre, cette machine sociale qui serait la classe moyenne, ceux qui se réalisent par le travail et leur vie sociale, et puis ceux qui en sont exclus, que quelques mécanismes régulateurs vont tenter de réintégrer. Mais cette espèce de dialectique du dedans et du dehors, de l'intégration et de l'exclu, apparaît à ce moment-là. C'est un moment effectivement clé, parce qu'en gros, la façon dont on parle de la pauvreté aujourd'hui date exactement de ces débats de 88 sur le RMI. Quoi.
Frédéric Lordon.
Oui, il faut se souvenir tout de même que parmi les facteurs qui ont causé la défaite électorale de la droite en 88, il y a eu la très maladroite suppression de l'IGF, impôt sur les grandes fortunes, ancêtre de l'ISF, par Jacques Chirac, qui s'en est mordu les doigts longtemps après. Alors évidemment, la recréation d'un impôt équivalent sous le nom un peu différent d'ISF apparaît comme une reconquête de gauche absolument magnifique. Et comme vous le disiez, on prend aux riches pour redistribuer aux pauvres. Il faudrait être bête pour s'opposer à une si bonne politique socialiste. Évidemment, avec peu de recul, on pouvait s'apercevoir qu'on entrait là dans le registre de l'alibi et de la verroterie de la politique fiscale, c'est-à-dire de la gesticulation symbolique qui redistribue des masse financière finalement de volume extrêmement maigre et qui permettent de faire passer en contrebande toute une série d'autres choses qui alors là pèsent singulièrement plus, comme la désindexation des salaires à laquelle on a procédé entre 1983 et 1986, l'explosion des revenus financiers, etc. etc. Et ça va tout à fait bon train. On pourrait observer néanmoins que dans cette logique de l'alibi et de la verroterie, il y avait finalement deux instruments. Il y avait la redistribution redistribution fiscale de troisième ordre. Et puis, il y avait des efforts quand même qui étaient consentis par la gauche pour faire bonne figure sur le terrain des mœurs sociétales,